Vous écoutez
RMC. RMC, la matinale week-end.
L'info et le sport, Stéphane Genest, Stéphanie Roch, bonjour.
Bonjour à tous.
Commençons par les trois grands titres.
La liberté retrouvée pour la plupart des migrants de l'océan Viking, la faute à une justice française complètement débordée et sobriété énergétique ou sobriété des supporters. Et bien le Qatar a choisi pas de bière autour des stades pour le mondial de foot.
Début de la Coupe du Monde demain, RMC est au plus près de l'équipe de France, entrée en lice des Bleus mardi face à l'Australie.
La matinale week-end.
Nous sommes donc une semaine après leur arrivée à Toulon. Et bien, la plupart des migrants de l'océan Viking sont désormais libres.
Au total, ils sont 123 à avoir quitté le centre d'accueil de la presqu'île de Gien, y compris ceux qui sont concernés par un avis défavorable émis par les services de l'immigration. La faute à un imbroglio juridique et surtout à une justice débordée. L'opposition crie au scandale, parle même d'un fiasco. Mais le député Renaissance, Sacha Houlier, de la majorité donc, tient à rassurer.
Avant leur débarquement, on a eu un criblage de la DGSI sur les profils, on a eu des analyses sur également les casiers judiciaires ou les difficultés qu'ils pouvaient présenter au titre de leur droit public, et tous ceux qui n'étaient à ce titre-là pas éligibles au droit d'asile ont d'ores et déjà été expulsés. Et puis enfin, bien toute une série de dossiers qui nécessitent un peu plus de temps. Tous ces gens sont enregistrés, tous ces gens sont suivis sur le territoire national, et même s'ils sont libérés de l'île de Gien, ils ne sont pas pour autant inconnus ou en tout cas dans la nature comme on pourrait l'entendre. Ils sont accueillis au titre de l'hébergement d'urgence, donc on sait aussi où ils se trouvent. Donc a priori, oui, on est quand même capable de les retrouver sur le territoire national.
Et juste après ce journal, essayons de comprendre ce qui s'est passé. Pascal Brice, l'ancien directeur de l'OFPRA, l'Office pour les réfugiés et les apatrides, sera avec nous. 32-16 si vous souhaitez intervenir. Certains crient à la faillite politique. Qu'en pensez-vous? Vous intervenez ce matin au 32-16.
L'actualité ce matin est aussi marquée par cet accord entre Dassault et Airbus sur le futur avion de combat européen. Il n'est pas encore prêt de prendre son envol, mais Emmanuel Macron estime que c'est un grand pas en avant, et cela après un an de négociations. La coopération militaire européenne, plus que jamais à l'ordre du jour, dans un contexte de guerre en Ukraine. Et sur le terrain, justement, le froid de l'hiver arrive. Moins 6 degrés prévus aujourd'hui dans plusieurs localités du pays. Des températures négatives qui ont des conséquences non négligeables au niveau militaire. Rémi Hink.
Une baisse des températures de 10 degrés est prévue dans les prochains jours en Ukraine. Dans ces conditions, l'objectif de Vladimir Poutine est simple, plonger les Ukrainiens dans le froid et saper le moral des civils. Mais cette stratégie, qui remonte aux années 80, n'est en réalité pas toujours efficace. Les Ukrainiens sont déjà très soudés et se sont bien préparés à l'arrivée de l'hiver. Sur le plan militaire, pas question de lancer de grands mouvements de troupes pour l'Ukraine comme pour la Russie. Un conflit gelé sur un terrain gelé, selon certains experts, Moscou pourrait privilégier les bombardements et Kiev les sabotages. Enfin, l'armée de Volodymyr Zelensky, aidée par les Occidentaux, semble bien mieux préparée que celle de Vladimir Poutine. Le Canada a par exemple fourni des tenues d'hiver aux soldats ukrainiens quand les soldats russes doivent apporter leur propre sac de couchage.
Autre conséquence de la guerre en Ukraine, la hausse des prix de l'énergie. Une hausse que le gouvernement tente de limiter pour les entreprises. Le dispositif d'aide pour faire face à cette crise énergétique ouvre ce matin, montant de l'enveloppe 10 milliards d'euros. Il suffit simplement d'aller sur le site des impôts, impots.gouv.fr. Et puis la SNCF met en place un bouclier tarifaire pour ses prix des billets de train. Une hausse limité à plus 5% sur l'année 2023.
RMC 8h04.
Ils seront dans la rue tout à l'heure, les pros, mais aussi les anti-corridas.
Et cela alors que la proposition de loi du député Émeric Caron visant à interdire cette pratique est votée jeudi à l'Assemblée nationale. Lucie Lou du CRAC, le comité radicalement anti-corrida, évidemment, est contre cette tradition.
La culture n'est pas une torture. Du moment que la culture ou la tradition est cruelle, il faut l'abolir. On ne peut pas respecter une tradition du moment qu'il y a de la maltraitance, des sévices, des cruautés. On ne peut pas. Il faut laisser tomber les traditions du moment qu'elles soient aussi cruelles. C'est un spectacle de souffrance pour l'agrément, pour amuser certaines personnes. L'horreur est là, l'horreur est là.
Peut-on encore défendre la corrida aujourd'hui? Réponse tout à l'heure de Corentin Carpentier, le porte-parole de l'Union de la Jeunesse Taurine de France, notre invité sur RMC tout à l'heure, 8h40.
En bref, l'actualité marquée également par la fin du procès de l'accident de Millas en 2017. La conductrice du bus scolaire a été condamnée à 5 ans de prison, dont un an ferme. Et le collectif Nous Toutes dans les rues du pays aujourd'hui, à l'occasion de la marche des violences sexuelles et contre les violences sexuelles et sexistes.
Et puis, J-1.
RMC, Coupe du Monde 2022.
La Coupe du Monde, l'ouverture de ce mondial, c'est demain. Et ce qui fait l'actualité ce matin, c'est ce volte-face du pays hôte et de la FIFA, l'interdiction de consommer de la bière, Stéphane.
Finalement, Mathieu, pas de bière à l'intérieur et aux abords des stades. On retrouve Léna Marjac, une des envoyées spéciales de RMC au Qatar, puisque cette décision saoule aussi bien les supporters que les partenaires de la FIFA.
Budweiser, le principal fournisseur d'alcool de la compétition, a réagi d'un bon « c'est gênant » dans un tweet depuis supprimé en réaction au communiqué de la FIFA interdisant la vente d'alcool aux abords des stades. Mais le brasseur américain aura tout de même ses stands les soirs de match pour la vente de sa bière sans alcool Bud Zero. Toutes les autres boissons alcoolisées seront exclusivement servies dans les fan zones ou les lieux autorisés comme les hôtels ou dans les espaces VIP des stades qui, eux, ont une dérogation puisque champagne, vin et spiritueux seront proposés. L'instance du football mondial termine son communiqué en tentant de rassurer les fans. Elle indique qu'avec le pays hôte, le Qatar, ils continueront de faire en sorte que les stades et leurs abords soient des lieux agréables, respectueux et plaisants pour les supporters.
Léna Marjac à Doha pour RMC. Les Bleus, Stéphanie Roch, côté terrain, nous sommes à 3 jours du premier match et ils peaufinent leur préparation.
Raphaël Varane et Karim Benzema continuent de s'entraîner en marge du groupe, mais malgré ces incertitudes, il y a quand même l'excitation à l'idée de jouer cette Coupe du Monde. Lucas Hernandez, le défenseur des Bleus, était déjà là en 2018 et il est très impatient d'en découdre à nouveau.
On va commencer à préparer le match. On a tous hâte que ce match commence mardi. On a tous faim de commencer cette compétition et je pense que ça sera un match compliqué comme en 2018. En 2018, mes souvenirs, c'est que le premier match de la compétition, lequel on a eu du mal de pouvoir gagner ce match. Ce sera à nous de répondre présent sur le terrain et de bien commencer cette compétition en gagnant ce premier match.
France-Australie, ce sera mardi dès 20h, RMC qui bouleverse sa grille de programme pour vous faire vivre ce mondial comme si vous y étiez. Près de 300 heures de direct, un studio délocalisé à Doha et les 64 matchs de ce mondial à vivre sur RMC.
Des bleus à l'âme pour l'équipe de France de hand, éliminée en demi-finale de l'Euro.
Une défaite 28-20 contre la Norvège, championne du monde et championne d'Europe. Les Françaises, comme lors du mondial l'an dernier, ont encore failli en deuxième mi-temps. Une énorme frustration pour le sélectionneur Olivier Crumbles à l'issue de la rencontre.
On a du mal face à cette équipe, ils jouent bien, ils jouent vite. Physiquement, on n'y est pas assez. Et on s'est épuisé à faire des erreurs. Ils nous ont fait courir. On a eu du mal à faire le changement attaque-défense. Bref, ils nous ont mis la pression. Ils ont joué mieux que nous. Il n'y a rien à dire sur cette défaite. Mais je ne suis pas étonné. Quand on n'est pas à notre meilleur niveau, on n'a aucune chance d'aller battre.
Le sélectionneur des Bleus qui dirigeait hier, rendez-vous compte, son 500e match sur le banc. C'est même difficile à dire. C'est un match qui ne restera pas dans les annales, forcément. Les Françaises vont quand même devoir se remobiliser. Elles affronteront demain le Monténégro pour la 3e place de cet Euro.
Et puis décidément, des Bleus dans tous leurs états, intouchables. Cela pour finir, le 15 de France de rugby espère clôturer sa tournée d'automne en beauté.
Des victoires de prestige face à l'Australie, l'Afrique du Sud, l'équipe de France de rugby espère bien surfer sur cette série d'invincibilité historique. 12 succès consécutifs du jamais vu pour le rugby français. Mais attention à cette sélection japonaise dont se méfie Thomas Ramos, le demi d'ouverture.
On fait peut-être pas leur meilleur match en Angleterre, mais on voit aussi qu'ils ont fait un énorme match face aux Blacks il y a moins d'un mois. C'est pas parce qu'ils sont passés à côté sur un match que ça montre le niveau de cette équipe. Et au contraire, ça serait trop facile de se dire, bon, ils sont passés à côté d'un match, donc ça va être un match facile. Non, non, au contraire, on s'attend aussi à une réaction de leur part et on sait de quoi ils sont capables. On est quand même concentré et on veut pas passer à côté d'un match comme ça.
Oui, ce sera bien France-Japon demain à 14h, dernier match de cette tournée d'automne à suivre en direct sur RMC depuis le Stadium de Toulouse.
Merci Stéphanie Roch, à tout à l'heure 8h30, 8h09. Peggy Broche,
c'est l'heure de jouer.
Allez, nous jouons. Nous jouons pour la totale Coupe du Monde, quoi.
Ah bah oui.
Bien sûr, évidemment, on est comme ça sur RMC, J-1 avant le Mondial. Qu'est-ce qu'on peut vous offrir de plus beau?
Ah, mais on a de quoi vous offrir tout ce qu'il faut pour la Coupe du Monde, parce que dans ce coffre, alors déjà, si vous vous sélectionnez, il suffit tout simplement de nous envoyer un SMS coffre au 73216. Une fois que vous êtes sélectionné, que vous passez à l'antenne, vous repartez, ça c'est sûr, avec un téléphone Samsung Galaxy M23 et le vidéoprojecteur portable. Vous pourrez comme ça aller regarder la Coupe du Monde où vous voulez.
Ça déjà, c'est parfait.
Ça c'est sûr, mais vous pouvez remettre tout ça en jeu, ouvrir le coffre. Et là, dans le coffre, soit il y a des AirPods, soit la totale Coupe du Monde avec, écoutez bien, à l'intérieur, une télé 70 pouces. Elle n'est pas dans le coffre, mais bon, vous avez compris. Une barre de son, une Xbox série S. Vous croyez qu'un tapeur, si ça va, ça va vous donner un indice.
Ça, rien, il est là le coffre.
Un four à mini pizza et un mini bar, comme ça vous serez totalement équipé. Alors n'hésitez pas à jouer avec nous par SMS, coffre au 732-16.
Allez-y,
à
les
suivre
amis.
Dans la matinale week-end.
L'Océan Viking, fiasco, faillite politique, l'opposition s'en prend au gouvernement. Comment en est-on arrivé à cette situation? On va essayer de savoir et de comprendre avec Pascal Brice, l'ancien directeur de l'Office pour les réfugiés et les apatrides. Il est avec nous dans deux minutes sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
8h14 sur RMC, l'Océan Viking, 204 rescapés, arrivés il y a un peu plus d'une semaine à Toulon. Et maintenant, moins de 10 dans le centre d'attente. Bonjour Pascal Brice.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'ancien directeur général de l'Office français pour les réfugiés et les apatrides, l'OFPRA, auteur de Sur le fil de l'asile aux éditions Fayard. On a vraiment besoin de comprendre ce qui a pu se passer, Pascal Brice. 234 a accosté et désormais moins de 10 migrants dans le centre de Gien en zone d'attente. Comment c'est possible ?
Bah écoutez, d'abord, c'est pas un franc succès, hein, c'est tout à fait clair. Il va falloir qu'on nous explique ce qui s'est passé, même si disons tout de suite que c'est pas un drame, hein, ni pour ces personnes qui sont maintenant, qui ont la vie sauve, ni collectivement, parce qu'ils ont fait l'objet de contrôles de police très poussés dès leur arrivée. Mais il va falloir qu'on comprenne ce qui s'est passé, parce que vous voyez bien qu'on n'a pas d'autre option que de faire réellement fonctionner la prochaine fois ces centres fermés, parce qu'ils sont normalement fermés, parce que vous n'avez pas d'autre option. Vous ne pouvez pas laisser les gens à la mer, mourir, et vous ne pouvez pas laisser passer tout le monde sans contrôle. Donc, il va falloir qu'on nous explique ce qui s'est passé, de manière à pouvoir, la prochaine fois, faire fonctionner correctement ces centres fermés, où on accueille les gens comme il faut, on vérifie qu'ils relèvent du droit d'asile, si c'est le cas, ils rentrent, si ce n'est pas le cas, ils sont reconduits.
Il y a les examens par l'OFPRA, il y a aussi l'appel à la justice. C'est ce qui a posé problème, très clairement, Pascal Brice, l'examen de tous ces dossiers par la justice d'abord toulonnaise, puis ensuite la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui n'a pas eu le temps d'examiner chaque dossier dans les délais impartis.
Bah, je vous dis, moi, ce que je demande, c'est que très vite, on regarde précisément ce qui s'est passé. Il y a plusieurs éléments, hein, semble-t-il. D'abord, c'est un cadeau des Italiens. Il faut quand même rappeler que c'est dans l'urgence que la France a décidé d'accueillir ces personnes, et heureusement que nous l'avons fait, sinon aujourd'hui, elle sera probablement morte. Et donc tout ça s'est mis en place dans l'urgence, premier point. Deuxième point, il y a probablement des questions de coordination des différents services qui sont intervenus. D'ailleurs, je veux rendre hommage à celles et ceux qui ont bossé sur place, parce que je peux dire qu'ils ont fait le boulot. Hein. Bon. Et puis, il y a probablement des questions de délai imposées par la loi. Et puis, il y a des problèmes de fonctionnement, encore une fois, des différents services. Donc, il y a eu probablement un enchaînement, mais il faudra vraiment qu'on fasse un examen très précis, parce que je redis qu'il n'y a pas d'autre solution que dans un cadre européen, parce que chacun, chacune, pays devra prendre un truc, que ça fonctionne. Et donc, il faudra qu'on comprenne comment ces différents éléments ont pu dysfonctionner, mais encore une fois, la décision était la bonne. Hein.
C'est essentiel, Pascal Brice, de comprendre ce qui s'est passé, parce qu'en attendant, le résultat, c'est quoi ? C'est l'image qui est renvoyée aux Français, c'est la réaction boulevard pour l'opposition, quel que soit le type d'opposition. Écoutons par exemple, hein, c'est un exemple, le Rassemblement National, Philippe Ballard, le député.
Les lois sont trop laxistes, on en a l'illustration. Vous savez, les réseaux de mafia sont au courant, hein, de toutes ces failles dans le dispositif juridique français. Donc ils en profitent et ils disent à ces pauvres bourgs, venez, il y aura des gros bateaux qui vont vous récupérer et puis qui vont vous emmener de l'autre côté de la Méditerranée et là, le droit vous donnera raison. C'est une pompe aspirante terrible et mortifère, on ne contrôle absolument plus rien. Alors de temps en temps, le gouvernement peut avoir des mots très fermes, il gonfle les muscles, puis à l'arrivée, bah non, tout ça, c'est de la com, vraiment, pardon, mais de la com à deux balles qui est servie par M. Darmanin et le gouvernement.
N'accueillons plus parce que nous ne savons pas le faire, dit le Rassemblement National. Je vois des associations qui demandent de fermer le centre en question à Toulon, sur la presqu'île de Gien. Voilà le résultat, Pascal Brice.
Oui, c'est bien pour ça que je demande des explications. Parce que la réalité, c'est quoi, je le redis, c'est que du coup, ce genre de dysfonctionnement alimente ce qui existe dans la société française, hein, c'est-à-dire qu'il y a des inquiétudes qui existent sur l'immigration, même si nous savons que nous en avons besoin pour bien des raisons. Donc c'est la raison pour laquelle moi je veux comprendre ce qui s'est passé là. Mmh. Parce que je vous le dis, vous rappeliez, j'ai été le directeur de l'OFPRA. Moi j'ai pratiqué des interventions avec les équipes de l'OFPRA, qui à nouveau là ont fait un boulot remarquable, à Malte et en Italie il y a 5 ans, dans les mêmes circonstances. Et tout s'est bien passé, donc moi je sais que ça fonctionne. Donc il faut se donner les moyens que ça fonctionne, et de manière à ne pas alimenter effectivement des discours comme ceux qu'on vient d'entendre là.
Alors,
moi je vous redis que ça fonctionne, ça peut fonctionner, là ça n'a pas fonctionné, il faut qu'on nous explique pourquoi. Je redis aussi qu'il n'y a pas de drame. Vous savez, moi ma seule vraie inquiétude aujourd'hui, outre celle que vous soulevez très justement, qui est un peu le fait d'alimenter cette inquiétude qui peut exister chez les Français, alors qu'il existe des réponses. Moi, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est les jeunes Érythréens qui ont quitté l'aide à l'enfance dans le Var, parce qu'ils se mettent en danger. Moi, je les connais bien, vous savez. Il y a 5 ans, je suis allé, moi, à plusieurs reprises, notamment une fois en Corrèze, voir des jeunes Érythréens que nous avions convaincus de quitter Calais, parce que ces jeunes, ils veulent immédiatement repartir vers l'honneur de l'Europe. Et au fond, là, moi, mon inquiétude, elle est d'abord pour eux, qui se mettent en danger par les trajets, les routes, etc. Mais oui, vous avez raison, ça doit fonctionner la prochaine fois, donc vite comprendre, adapter le dispositif administratif, le dispositif juridique.
En tirer toutes les leçons, Pascal
Brice. En tirer les leçons, absolument.
Merci beaucoup, ancien directeur général de l'Office français pour les réfugiés et les apatrides. Merci de votre éclairage ce matin sur RMC, 8h19.
À suivre dans la matinale week-end.
Le collectif Nous Toutes appelle à la mobilisation partout en France aujourd'hui pour mettre fin à l'impunité dans les dossiers de viol.
C'est quoi la réalité ? Est-ce que le viol est vraiment impuni en France ? Pourquoi on a autant de mal à réunir les preuves pour qualifier ou non un viol ? Enquête RMC dans une minute.
RMC, la matinale week-end. RMC, la matinale week-end.
8h21, vous êtes sur RMC, nous sommes samedi et c'est une nouvelle journée de mobilisation nationale à l'appel du collectif Nous Toutes pour en finir avec les violences sexistes, sexuelles, en finir aussi avec l'impunité dans les dossiers de viol.
L'enquête RMC.
La justice est-elle efficace au sujet des viols en France? Quel traitement judiciaire de ces agressions ou de ces viols? Marion Dubreuil, le service police-justice d'RMC, pour décrypter, pour comprendre. D'abord un chiffre, Marion. Chaque année, 94 000 femmes déclarent être victimes de viols ou de tentatives de viols, mais seuls 10% déposent plainte.
Ça, c'est le premier écrémage, Mathieu. Ça s'explique notamment parce que dans la majorité des cas, les victimes connaissent leur agresseur, c'est le plus souvent leur compagnon. Ensuite, deuxième étape, ce sont les procureurs qui font le tri. 70% des dossiers de viol sont classés sans suite, comme celui de Marie. Elle a déposé plainte l'an dernier contre un collègue.
Quand je reçois le classement sans suite et quand je reçois le dossier pénal dans son intégralité, je me rends compte que rien n'a été fait du côté de la sphère professionnelle. L'ordinateur professionnel n'a pas été saisi. Le bureau dans lequel des viols ont été commis n'a pas été visité. D'autres collègues n'ont pas été auditionnés. C'est donc ça. En fait, je vis l'injustice que vivent un paquet de victimes. Je suis écœuré, je suis anéanti. Même si j'avais conscience que ça allait être difficile, j'étais pleine d'espoir. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, en fait, ce gars a gagné, il va continuer.
Et des récits comme celui de Marie, il y en a donc des dizaines de milliers par an. Pourquoi ces classements sans suite, Marion Dubreuil ? Quelles sont les raisons invoquées par la justice ?
Eh bien, il y a des raisons objectives. La prescription, par exemple, ou bien l'irresponsabilité pénale d'un mis en cause. Mais la majorité des classements sans suite portent la mention « infraction insuffisamment caractérisée ». Écoutez les explications d'Aurélien Martini. Il est vice-procureur au tribunal de Melun et membre du bureau national de l'USM, l'Union syndicale des magistrats.
Bien souvent, ces infractions sont commises dans un huis clos, avec assez peu de témoins, peu de vidéosurveillance. Donc il faut arriver à travailler sur la psychologie, sur les postures. Dans l'immense majorité des cas, on classe pour des problèmes de preuve. J'ai classé des dossiers en me disant, je pense que telle personne a effectivement commis les faits, mais je n'ai pas les éléments suffisants. Dans un état de droit, la présomption d'innocence commande dans ce cas-là de ne pas poursuivre, de classer. Et le travail, ça n'est pas d'envoyer des gens devant les tribunaux pour qu'ils soient relaxés. L'idée, c'est quand même d'envoyer des dossiers suffisamment solides pour arriver à des décisions de condamnation.
Mais que faire quand il n'y a pas de preuves ? Est-ce qu'il y a des recours, Marion ?
Les victimes peuvent se constituer partie civile pour obtenir la nomination d'un juge d'instruction et relancer ainsi les investigations. C'est ce que conseille l'avocate spécialisée dans les violences sexuelles, Élodie Thuayon-Hibon, avec un bémol.
ça fait reposer finalement la charge de l'action à nouveau sur la victime. Les dossiers de violence sexuelle, il y a des preuves de toutes sortes, hein. Il y a des témoignages, il y a des messages, il y a de l'ADN, il y a des semi-aveux, enfin il y a tout comme dans tous les autres dossiers. Ces histoires de parole contre parole, franchement, c'est une mythologie en fait.
L'an dernier, la justice a prononcé 1413 condamnations pour viol, un chiffre plus ou moins constant depuis 10 ans.
Marion Dubreuil, service police-justice d'RMC, merci beaucoup. Enquête à retrouver sur rmc.fr. 8h24.
Oserez-vous ouvrir le coffre RMC ?
Le coffre RMC.
Ça y est, c'est le moment de vérité.
Oh là là, là, je suis stressé.
Vous avez joué avec nous depuis 6 heures. Le tirage au sort vient d'avoir lieu. Le gagnant ou la gagnante est en Gironde. C'est une gagnante qui s'appelle Coralie. Bonjour.
Bonjour Coralie.
Bonjour.
Bon, ça va ce matin,
de vous avoir
Coralie
à l'antenne.
Ah bah ça va, je suis ravie de vous avoir aussi, je m'attendais pas du tout à être tirée au sort.
Eh bah voilà, c'est le hasard qui fait bien les choses pour vous ce matin, Coralie. Déjà, vous repartez avec un téléphone Samsung Galaxy M23 et un vidéoprojecteur portable.
Oui.
Ça déjà, c'est un super cadeau. Hein.
Oui, pour une journée de travail, ça valait le coup de se lever tôt.
Ah bah voilà. Que faites-vous, Coralie ?
Je suis infirmière libérale.
Infirmière libérale, fan de foot ?
Mon mari surtout.
Alors, si vous voulez encore plus faire plaisir à votre mari, vous pouvez laisser de côté ses cadeaux, remettre en jeu, ouvrir le coffre. Et là, dans le coffre, il y a soit des AirPods, donc un peu moins bien que ce que vous venez de gagner, ou alors la totale Coupe du Monde, avec une télé, une barre de son, une Xbox et même un four mini pizza et un mini bar. Vous faites quoi, Coralie ?
C'est un dilemme. On a cruellement besoin d'un téléphone, donc je... Je vais rester raisonnable.
C'est vrai, vous n'ouvrez pas le coffre ?
Je risque peut-être... Enfin, je le regretterai pas parce que j'ai déjà gagné et c'est déjà très bien. Mais oui, on a...
C'est
on
votre
a
dernier mot.
Oui, allez.
Eh bien, on n'ouvre pas le coffre.
Le téléphone Samsung Galaxy M23 dont vous avez besoin, qui part chez vous, ainsi que le vidéoprojecteur portable. Est-ce que vous voulez quand même savoir ce qu'il y avait dans le coffre ?
Oui, on va l'ouvrir.
Oui, voyons voir si vous
allez
regretter.
Allez.
Enfin, non, je ne regretterai pas.
Alors,
il y avait...
Il y a...
La totale, Coralie.
Mais non, Mathieu.
Eh ben voilà, vous êtes passé à côté de la totale.
Mais non.
C'est le jeu. Je suis déjà très contente.
Bon... Le téléphone part à la maison, vous inquiétez pas.
Salut Coralie, merci d'avoir joué avec nous.
Merci beaucoup.
Et excellente Coupe du Monde à l'écoute d'RMC.
RMC, la matinale week-end.
RMC, la matinale week-end.
Tous engagés.
8h42 sur RMC, tous engagés. Vous engagez sur un sujet d'actualité. Peut-on encore défendre la corrida en France ? C'est notre sujet ce matin. Bonjour Corentin Carpentier.
Bonjour Mathieu Roux.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de l'Union de la Jeunesse Taurine de France. C'est un mouvement qui regroupe des jeunes de 110 communes de tradition taurine. Il y a des manifestations d'anti-corrida qui sont programmées aujourd'hui un peu partout en France. Il y a aussi des manifestations de pro-corrida. Vous en organisez vous-même ?
Tout à fait, j'en organise une tout à l'heure en Camargue où on attend au moins 2000 personnes et surtout des jeunes qui vont réaffirmer voilà leur passion, leur liberté et surtout porter le message de la tauromachie, c'est encore ancré et enraciné dans nos territoires et les jeunes se passionnent pour ça.
Les jeunes, vous avez vous-même 32 ans, on peut être jeune et défendre cette tradition ancestrale qui est, disons-le, de plus en plus décrié, de moins en moins comprise.
Alors, de moins en moins comprise, ça c'est sûr, parce que aujourd'hui on se retrouve quelque part en décalage avec une certaine partie de la population. Nous sommes dans le sud de la France, restés à majorité des terres rurales, où l'animal est resté ancré dans nos vies de tous les jours, et dont l'élevage de taureaux qui façonne nos territoires. Qui, pour le rappeler, hein, le taureau de combat ou le taureau Camargue qui sont utilisés pour les courses de taureaux sont les derniers élevages bovins qui sont restés sauvages, qui sont élevés de manière extensive et qui préservent des territoires incroyables de biodiversité, de biotopes. Et donc cet enracinement, cet amour du taureau que nous croisons tous les jours quand nous allons nous balader, quand nous même des fois prenons la voiture, ça a maintenu une passion forte, un amour du taureau.
Vous aimez le taureau, Corentin Carpentier ? Vous aimez le taureau ?
Ben c'est mon animal préféré.
Alors pourquoi le tuer?
Je l'ai en affiche de partout chez moi.
Pourquoi le tuer?
Ben, alors pourquoi le tuer? Parce que on aborde un sujet peut-être un sujet un peu plus philosophique. Si on accepte nous avons le droit de tuer des animaux dans notre société, de les manger, pourquoi ne pas accepter que chaque animal puisse avoir sa propre mort? La mort du taureau de combat. Déjà, c'est 7% sur 15 000 têtes de bétail en France qui terminent dans l'arène. Pour le reste, qui vivent et qui meurent de leur belle mort, pour certains qui vont à l'abattoir pour la viande, qui est une viande d'ailleurs excellente. Mais le taureau de combat qui va dans l'arène pour combattre, il va combattre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un animal sauvage.
Il choisit d'aller combattre,
qui est le seul à être resté. Ah, tout à fait. Un animal comme le taureau de combat qui entre dans l'arène, à sa nature propre de combattant.
C'est lui qui choisit de venir combattre avec le torero ou le matador, et c'est lui qui, quelque part, choisit sa mort. Si je vous comprends bien.
Alors, évidemment qu'il y a à un moment donné un éleveur qui va élever ce taureau pendant 5 ans en pleine liberté et qui va le mener aux arènes, mais entre le comportement que le taureau de combat a naturellement dans le camp, c'est-à-dire dans son champ, là où il vit, là où il combat en permanence, souvent à mort avec ses congénères, il ne va absolument pas changer de comportement lorsqu'il rentre dans l'arène. C'est-à-dire que dans l'arène, il va être comme il est dans le camp, c'est-à-dire qu'il va combattre, il va chercher l'arène son territoire.
Selon vous, le taureau a conscience de ce qui se passe dans les corridas et a conscience d'entrer dans une arène pour combattre et pour être probablement mise à mort. C'est la première fois que j'entends ça.
Oui, parce c'est ce qui est sa vie de tous les jours. C'est-à-dire que c'est déjà ce qu'il fait dans le camp, puisque c'est un taureau qui n'a jamais été domestiqué par l'homme, qui est resté sauvage et qui a été préservé justement de la domestication de l'homme pour conserver cet aspect de combattant et qui permet les jeux taurins qui sont bien plus anciens d'ailleurs que la corrida, puisque la corrida c'est une forme moderne de la tauromachie, mais les courses de taureaux existent depuis le Moyen-Âge sur le bassin méditerranéen. Elle a pris différentes formes et la corrida est son aboutissement moderne.
Corentin Carpentier, je vous arrête parce que j'entends que quelqu'un boue à vous écouter. C'est Pascal qui nous rejoint au 32-16. Bonjour Pascal.
Bonjour, bonjour Mathieu, bonjour.
Tradition stupide, dites-vous.
C'est stupide dans le sens où règne la souffrance animale. Parce qu'avant de mettre le taureau à mort, on va lui planter des banderilles. Ensuite, on va galoper avec des chevaux et des picadors pour encore le faire souffrir. Avant une mise à mort qui n'est pas toujours exécutée du premier coup. Et j'ai participé à une corrida où je me rappelle qu'un taureau, le matador, l'a raté 3 fois d'affilée. Et où la foule a crié « Viva el toro !» Ça veut dire « Laissez-le en vie !» Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont abattu quand même, parce que le taureau ne pouvait plus vivre décemment tellement il était blessé. C'est la blessure animale que je ne comprends pas, moi, pourquoi on les fait souffrir.
Donc, Pascal, cette corrida, pourquoi pas, mais sans mise à mort?
Alors, j'ai participé aussi à ce qu'ils appelaient une corrida comique, où là, le taureau était, on avait protégé le bout de ses cornes avec des boules, où là, il n'y avait ni banderille, ni picador, ni mise à mort, mais en fait, c'était plusieurs matadors qui couraient avec les capes pour le faire courir, justement, le faire courir dans l'arène avec des capes, et où ils étaient à 3 ou à 4, je ne sais plus, mais c'était un spectacle parce que certains passaient en dessous, d'autres faisaient des sauts périlleux pour passer au-dessus.
Spectacle qui vous gênait moins, alors, Pascal, si je comprends bien.
Mais un vrai spectacle sans souffrance animale.
Corentin Carpentier, peut-on conserver une certaine forme de corrida sans mise à mort? Est-ce qu'une corrida reste une corrida si on enlève la mise à mort? J'ajoute, parenthèse, que c'est déjà le cas en Espagne, que c'est le cas au Portugal et que c'est le cas au Mexique. Corrida, soit interdite, soit qui perdure, mais sans mise à mort.
Alors, déjà, j'aimerais répondre à votre auditeur qui, a priori, je vais le réinviter à venir découvrir nos traditions taurines dans le sud de la France, parce que dans ce qu'il a dit, il y a énormément de choses fausses. Et puis la corrida conique, je vous prie de croire que je vois 80 spectacles taurins par an, je n'ai jamais vu une corrida conique. Donc je pense qu'il parle plutôt d'une course landaise éventuellement avec des écarteurs ou d'une course camargaise avec des raseteurs, mais dans tous les cas, c'est encore une fois cette notion de vouloir comprendre et d'essayer de comprendre la façon dont on vit. La mise à mort et la place de la mort dans la tauromachie est centrale parce que c'est aujourd'hui la dernière culture vivante qui accepte de mettre en lumière notre rapport à la vie et à la mort. Et donc, c'est central parce que ce rapport-là à la vie et à la mort se joue autour de l'animal qu'on célèbre le plus dans nos territoires, qui est le taureau. Déjà, il faut savoir que la corrida portugaise au Portugal le taureau est abattu derrière dans le toril une fois qu'il est rentré dans l'arène. Mm-hmm. En Espagne, il n'y a jamais eu encore de corrida sans mise à mort, ça n'existe pas. La corrida est avec mise à mort en Espagne. D'ailleurs, en Catalogne, la corrida, le Conseil constitutionnel a annulé l'interdiction de la corrida en Catalogne, donc les corridas peuvent avoir lieu. Et le Mexique reprend les corridas. Mexico particulièrement reprend les corridas au mois de février.
Donc inimaginable.
Donc, aujourd'hui, la corrida n'est pas en recul. Mais non, parce qu'en fait, c'est une question philosophique que nous nous posons en allant dans les arènes voir mourir l'animal que l'on admire le plus. C'est cette notion de rapport à la mort et de se poser devant quelque chose qui nous interroge sur notre propre existence, sur notre propre fragilité. Et donc l'animal est combattu par quelqu'un qui, il ne faut pas l'oublier parce qu'on parle de la mort du taureau, mais qui joue sa vie aussi dans l'arène. Ouais. Le torero qui affronte le taureau ne peut affronter ce taureau qu'en mettant sa propre vie en jeu. Et donc là aussi, c'est une question philosophique, un respect profond du taureau, parce que il arrive que le torero soit effectivement blessé très gravement. Pour certains, il y en a qui meurent. Il y en a ces dernières années, il y a eu des drames là-dessus. Mais le sens profond de ce rapport à l'animal peut aussi être de sauver le taureau. C'est-à-dire qu'on accepte de voir l'animal mourir, mais aussi on accepte des fois de le voir, de le sauver. C'est-à-dire que c'est ce qui s'appelle l'indulto, gracier un taureau. C'est quand un taureau a transporté le public, qu'on l'a trouvé beau, qu'on l'a trouvé combatif, qu'on l'a trouvé noble, qu'il a toute l'admiration du public. Le public demande à ce que ce taureau ne soit pas tué,
gracier, qu'il puisse
retourner dans son, il va être soigné derrière. Généralement, c'est 2 jours de soins et le taureau est déjà dans ses prés, auprès de ses congénères et auprès des vaches, et il devient reproducteur toute sa vie. Il y a aussi une réalité, c'est que dans la corrida, il n'y a pas toujours la mort, parce que l'intérêt pour nous, quand on va aux arènes, c'est de voir le taureau, c'est d'aller voir combattre un taureau. Et quand le taureau est grand, quand il représente toute la beauté, toute la nature brute que l'on ne connaît de lui, et bien à ce moment-là, il peut aussi sauver sa vie. Et donc aller terminer vie tranquillement au Cambo.
Merci Corentin Carpentier, merci d'avoir été avec nous,
merci
d'avoir partagé votre point de vue, votre passion, on l'entend, pour une corrida réelle, traditionnelle, avec mise à mort, porte-parole de l'Union de la Jeunesse Taurine en France. Cette proposition de loi pour interdire la corrida, portée par Émeric Caron, sera débattue jeudi prochain dans l'hémicycle. Il est 8h52, vous êtes sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
Tiens, poursuivons avec Arnaud Demange pour sourire de l'actualité et de ce sujet donc qui a traversé cette semaine d'actualité, la corrida, vue par Arnaud Demange.
Oui, la corrida, c'est quand même un sport étrange. C'est le seul sport où on tue le perdant à l'arme blanche. On ne fait pas ça au tennis, par exemple. Enfin, je veux dire, quand Gaël, mon fils, fout une balle de match dans le filet, il n'y a pas un jeune Hidalgo qui fait pic, 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 pic et qui lui coupe les deux oreilles et la queue. On ne tue pas les sportifs, normalement, même dans les pires dictatures. Au Qatar, par exemple, on se contente des ouvriers. Alors, dans la loi, vous savez qu'on n'a pas le droit de torturer des animaux. Mais il y a un petit alinéa qui dit, sauf pour la corrida, parce que ça fait longtemps, c'est une tradition, etc. Heureusement qu'on n'a pas fait ça pour toutes les lois. Pendant 4000 ans, on a traité les femmes comme des lave-vaisselles. Heureusement qu'on s'est pas dit le droit de vote. Mais ça fait 4000 ans qu'elles ferment leur gueule. Et nos traditions. Parce que là, la torture d'animaux, c'est une tradition. Maintenant, c'est pas une tradition qui est super mise en avant dans les pubs de syndicats d'initiative, la torture.
La Bretagne. Ses traditions millénaires. L'explosion de tympans au biniou désaccordé. L'écartèlement par 4 cochons. L'écrasement testiculaire avec des pierres en granit. Depuis 3000 ans, nos régions ont du talent. Alors,
Les pro-corrida disent c'est pour montrer nos valeurs régionales et la majesté des animaux, mais pas de problème, montrez-la la majesté des animaux. Faites des pirouettes par-dessus un taureau dans un costume de Claude François. C'est très joli, regardez, c'est adorable. Mais il n'y a pas besoin de tuer la bête, les galipettes c'est déjà très bien. Et ce serait même en y renonçant que vous montreriez que vous avez des valeurs. Allez, à demain.
Arnaud Demange, que vous retrouvez du lundi au dimanche sur RMC, 7h20, 8h20 dans Apolline Matin, mais aussi dans la matinale week-end, bien sûr.